Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission hebdomadaire de lecture avec, toujours fidèle au poste, Hervé.
Bonjour.
Bonjour Hervé. Alors aujourd'hui, tu n'es pas venu seul, Hervé, parce que tu vas casser un petit peu les codes de l'émission.
En effet, j'ai choisi aujourd'hui de ne pas lire un roman ou des extraits de romans. Je me suis permis d'inviter des personnes qui vont nous relire leurs textes écrits de façon locale.
Et donc, tu as invité Lise. Bonjour Lise.
Bonjour.
Donc Lise, Hervé va nous expliquer ta présence ici.
Voilà, je m'en explique. Aujourd'hui, donc, notre émission Brouillon de lecture va être un petit peu particulière, car figurez-vous qu'à Blois, il se passe parfois des choses étranges. Évidemment, il y a des choses que tout le monde connaît. Un château, des oiseaux, des marchands de chaussures et des voitures. Des salles de pestacle, un château d'eau, un jeu de paume et même une hague. C'est comme ça qu'on dit. Il y a même une rue du Champ des Oiseaux, sans que personne ne s'en étonne. Et pourtant, c'est tout de même un peu particulier, une rue du Champ des Oiseaux. Je vous explique. Il y a très 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 longtemps, une fée très 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 belle naissait au Mont Gerbier de Jonc. À cette époque-là, les gens ou les fées qui naissaient quelque part ne connaissaient pas Bernard Lavilliers. Il ne cherchait pas donc à aller faire des études dans les grandes villes pour ne jamais revenir vivre dans ce quelque part de leur naissance. Ce qui fait que notre très 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 belle fée, qui s'appelait Ligérienne, est restée vivre au Mont Gerbier de Jonc. L'occupation préférée de Ligérienne était de jouer dans l'eau, ce qui fait que sa mère, qui l'aimait beaucoup, a décidé un jour de la transformer en fleuve pour qu'elle puisse jouer indéfiniment sans jamais manquer d'eau. Ses sœurs, les amaradriades, lui offrirent des fleurs, des arbres, des grottes et même des êtres vivants. C'est ainsi que naquit, bien des années plus tard, au XVIe siècle, une petite fille qui s'appelait Adèle. Adèle vivait dans notre bonne ville de Blois, située au bord de ce même fleuve, la Ligérienne, donc, mais qu'on appelle aujourd'hui la Loire. Mais elle était fort malheureuse, car tout le monde se moquait d'elle à cause de ses très, très, très grandes oreilles. Pourtant, au fond d'elle-même, elle se sentait heureuse, car elle avait un don unique qui la remplissait d'aise. Grâce à ses immenses oreilles, elle comprenait le langage des animaux. Alors Adèle ne savait pas si elle devait se sentir heureuse ou malheureuse. Les garçons se moquaient d'elle, ce qui la rendait honteuse, mais elle n'aimait pas trop leur compagnie et préférait aller rejoindre les animaux qu'elle chérissait, qu'elle comprenait et qui la rendaient heureuse. En ce temps-là, au XVIe siècle donc, si vous suivez mon histoire, était un roi qui s'appelait François Ier. Ce roi partageait son temps entre Paris, où il travaillait à prendre des grandes décisions, entouré de ses partisans et partisanes qu'on appelait sa cour, et Blois, où il venait pour chasser dans la région qui s'appelait la Sologne. Un jour, où François Ier chassait en Sologne, il vit un cerf, un très grand cerf, qui était immobile et le fixait de ses grands yeux mélancoliques et chiasseux tout à la fois. Le roi se dit que ce cerf était digne de lui et n'attendait que lui pour se faire tuer. Alors François Ier, qui était un grand roi mais peut-être un piètre chasseur, se lança sur son cheval à la poursuite du grand cerf sans se soucier de ses chiens qui fatiguaient ni du temps qui passait ni du soleil qui, fatigué lui aussi, cédait peu à peu sa place à la nuit. Bientôt le roi, qui, rappelons-le, était un grand roi mais un piètre chasseur, se retrouva seul dans cette immense forêt parmi les ombres qui s'allongeaient. Se rendant compte qu'il était perdu et n'entendant plus aucun bruit de poursuite de ses chiens ou de ses gens, le roi mit pied à terre et commença à se poser des questions sur l'incompétence de ses ministres qui étaient infoutus de le suivre, mais sans aucunement se demander s'il pouvait être lui-même responsable de sa soudaine solitude. Alors qu'il se tenait immobile au milieu de nulle part, il entendit un bruit tout près de lui. Parce qu'il était un grand roi, à défaut d'être un piètre chasseur, François dit, le premier, se saisit de son épée et se retourna face au danger, prêt à défendre chèrement sa peau royale. L'immense cerf se tenait droit et immobile tout près de lui, prêt à charger ce faible humain qui n'était plus protégé ni de ses ministres, ni surtout de ses chiens. Entre un cerf de plus de 300 kilos et coiffé de ses bois, habitué à combattre ses rivaux et un roi, même grand, mais pesant peu et plus habitué à flatter les belles dames de la cour qu'à combattre avec son épée au milieu d'une forêt inhospitalière et sombre, la fin semblait inéluctable. Un long moment empli d'un silence assourdissant passa. Alors que François Ier réalisait que sa fin était proche, le cerf tout à coup sembla douter, leva la tête, huma l'air longuement et se mit à écouter un son inaudible du grand roi, qui était un piètre chasseur, rappelons-le, mais qu'il semblait redouter, tout en se désintéressant soudain de sa victime royale. François Ier, surpris de ce soudain revirement de son prédateur, jeta un long regard circulaire dans l'espoir d'apercevoir son sauveur. Mais ce qu'il vit, ou plutôt crut voir tant l'obscurité gagnait, le surprit plus que tout. Une frêle jeune femme, très belle, mais avec des grandes oreilles, se tenait tout près de lui, sans qu'il l'entendît arriver. Très calmement, comme si aucun danger ne menaçait sa personne, elle vint se placer entre le cerf et le roi François, tout en fixant silencieusement la bête. Un long moment passa auprès duquel le cerf tourna la tête et s'en fut vers d'autres lieux, autre proie ou autre biche. Adèle, car c'était elle, vous l'aviez reconnue, se retourna alors pour faire face à son roi. Tandis qu'elle s'apprêtait à faire une révérence, le roi, parce qu'il était un bon roi, même s'il était un piètre chasseur, la releva immédiatement et lui dit « Relève-toi, mon enfant. Tu n'as pas à te baisser devant ton roi, car tu viens de me sauver la vie, et je te serai éternellement reconnaissant. Désormais, ta fortune est faite, et tu viendras vivre à la cour. » Adèle rougit et ne sut que répondre, car elle était plus habituée à parler aux animaux qu'au roi, même quand ils étaient de piètres chasseurs. Tout de même, elle fit ce qu'elle savait faire. Elle appela le cheval du roi qui se tenait à quelques pas et aida son suzerain à remonter sur sa selle. Enfin, elle osa lui dire « Ô mon roi, je te remercie pour ta bonté, mais je ne me sens pas prête à rejoindre la cour car je suis mal habillée. Permets-moi de retourner chez moi dans l'instant pour me mieux apprêter. » Le roi, maintenant qu'il était à nouveau sur sa selle et dans une position plus digne de son rang, se pencha vers elle et lui répondit qu'il acceptait de lui donner cette faveur pour ce soir, mais qu'il l'attendait au plus tôt à la cour de Blois, où il résidait en ce moment pendant ses congés, en ce moment. Adèle, une fois rentrée chez elle, commença à se préparer pour rejoindre la cour du roi. Mais plus elle tournait, se retournait et se préparait, plus elle doutait d'elle-même et du bien fondé d'aller se mêler aux gens de la cour, qui ne la comprendraient pas et qui se moqueraient d'elle sûrement à cause de ses grandes oreilles. Tandis qu'elle tournait ses pensées dans sa tête, l'Igérienne, dont nous avons parlé au début de notre histoire, apparut soudainement devant elle. Après un moment de confusion dans l'esprit d'Adèle, celle-ci reconnut sa célèbre aïeule, se mit à genoux devant elle en pleurant. L'Igérienne, qui était une fée très sage, comprit les hésitations et les altermoiements de sa filleule et tint à la rassurer. « Adèle, ma filleule, tu as raison de douter d'avoir envie de rejoindre la cour, lieu de toutes les vilainies et trahisons. Garde-toi également de la richesse qui peut rendre sourd et aveugle. » En devenant riche, tu y perdrais tes dons et qualités dont t'a doté Mère Nature. Sur ces sages paroles, l'Igérienne disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. La vie d'Adèle devint alors limpide, faite de simplicité et bonté envers ses semblables. Ce que ne dit pas cette histoire, c'est pourquoi Adèle, alors que la vie reprenait son cours normalement, se mit à comprendre les oiseaux, plus encore que les animaux eux-mêmes. Ceux-ci vinrent de plus en plus nombreux à lui rendre visite, et la petite rue de Blois où elle vivait semblait un véritable paradis de nature en plein centre-ville. Alors évidemment, quelques siècles plus tard, au XXe siècle, des oiseleurs voulurent profiter de l'aubaine que représentait la présence de ces nombreux oiseaux et vinrent s'installer pour tenir boutique. Mais ne vous y laissez pas prendre à vous contenter de cette explication succincte. La rue du Champ des Oiseaux s'appelle ainsi à cause de la présence des oiseleurs. En réalité, c'est bien à l'Igérienne et sa lointaine aïeule Adèle que l'on doit son joli nom. Been wasting my time on my song. Been wasting my time, God, it's too long. Been waiting for death since I was born. Been waiting for death with you, my love. I'm waiting for something to happen. My tears are falling without reason.
Merci Hervé pour ce conte.
Je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'à Blois, il se passait parfois des choses étranges. Il vous faut donc vous méfier, car au détour d'une place, d'une rue, du Champ des Oiseaux ou d'un trottoir, on entend parfois, sous un lampadaire, des gens qui chuchotent. Ils vous chuchotent à l'oreille des mots doux ou des histoires. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de vous parler de ces choses étranges. Je me suis glissé sous un lampadaire qui chuchote. Je l'ai bien écouté et j'ai décidé de faire connaissance avec la voix. Après des heures de recherche, que dis-je, des heures, des jours, des mois, j'ai enfin découvert sa date de naissance. Sa date de naissance, on s'en fout complètement de sa date de naissance. Non, j'ai enfin découvert sa nationalité, sa fonctionnalité, bref, qui elle était. Et j'ai donc fait sa connaissance. Voilà ce qu'elle m'a dit. Avant que je ne t'autorise à parler de moi à tes auditeurs, tu dois d'abord savoir qu'il existe à Blois un atelier clandestin. Oui, farpètement, un atelier clandestin. Et à quoi sert un atelier clandestin, je te le donne en mille? À écrire des histoires. Mais, mon petit bonhomme, dans un atelier même clandestin, on n'est pas tout seul. En conséquence de quoi, quand on veut entendre une histoire, on est obligé de l'entendre en plusieurs exemplaires. Ce qui enrichit d'ailleurs la beauté des histoires. Par exemple, lors de l'une de nos réunions clandestines, nous devions écrire une histoire sans A. Alors moi, Hervé Perrol, je reprends la parole, donc j'ai repris mes recherches, et de cette histoire sans A, j'en ai retrouvé trois voix. Trois voix féminines et envoûtantes. Et j'en profite pour glisser une petite parenthèse. Puisque nous ne savons pas combien d'auditeurs nous écoutent, je vais vous encourager à démasquer les erreurs. Si vous entendez un « A » qui se serait subrepticement glissé dans les histoires que vous allez entendre, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, les auditrices et auditeurs, à entendre cette histoire sans « A » à plusieurs voix? En voici la première.
Un événement du quotidien. C'est du vécu. Mercredi, je me suis retrouvée pleine de blessures puisque mon petit minou, qui ne comprend rien, s'est exercé les griffes sur l'un de mes membres inférieurs. Je vous explique. Lorsque j'ouvre mon nuit pour le releveur de compteur, je mets le pied et tout mon poids du reste, quelle erreur, sur mon minou, qui hurle et se rebiffe, bien sûr, et me griffe profondément. Ce minou est en légitime défense, non? Oh mon Dieu! En un clin d'œil, mon couloir est comme une scène de crime. De l'hémoglobine en veux-tu, en voici! Les griffes ont sûrement perforé une petite veine. Le gentil releveur de compteur se mue en secouriste. Il téléphone. Les secours viennent. On m'emmène vers les urgences. Cette griffure n'est ni sévère ni même douloureuse. Seulement, il convient d'y veiller, puisqu'une infection est toujours possible. Les griffes des félins sont en effet pleines de microbes. Toutefois, il est possible de l'éviter. C'est pourquoi je suis strictement les consignes de l'infirmière et j'espère que je me conduis correctement. Je désinfecte l'endroit tous les jours, comme prescrit, et le protège d'un tricot stérile pour éviter l'entrée des microbes.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle est boxeuses amoureuses. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute. Percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. La boxe.
Les auditeurs ont entendu, ne serait-ce qu'une seule fois, la lettre A, alors ils peuvent écrire à Studio Zef pour se plaindre. Comment je crois écouter une radio de qualité où on ne dit pas trop de bêtises et où on peut entendre parfois, tout dépend de qui l'a choisi, de la bonne musique. Et voilà que tout d'un coup, hop là, youp, il y a Hervé Perrol qui nous dit comme ça qu'il va faire un tour de magie en nous faisant écouter un texte écrit par une certaine Lise qui ne nous a même pas été présentée et qui, soi-disant, a écrit son texte sans lettre A. Et qu'entends-je ? Une lettre A qui se balade comme ça au milieu de nulle part en faisant la discrète. Eh bien, vous avez raison, chers auditeurs, si c'était le cas, ce serait absolument scandaleux et inadmissible de la part d'une radio dite de qualité. Ceci étant dit, cette émission a obtenu le visa de censure de la direction et chaque texte ne devrait donc pas, a priori, avoir de lettre A. N'est-ce pas, Dominique ?
Tout à fait.
Tout à fait. Voilà donc maintenant le deuxième texte écrit et lu par notre amie Sophie, ici présente. Bonjour Sophie.
Bonjour Hervé.
Ce texte que tu vas nous lire aujourd'hui, c'était également dans le cadre du même atelier d'écriture de Lise, hein, qui vient de nous lire sa petite histoire de Minou blessé, c'est bien ça?
Exactement.
Exactement. Alors Sophie, nous t'écoutons.
Très chère Virginie, il suffit que je te vis pour que mon cœur te dise oui. Belle comme une rose, esquisse Virginie, je me meurs d'envie sous tes yeux verts de gris. Ton sourire m'émeut, ton corps est un délice, excuse mon ton quelque peu incisif. Je désire qu'on se revoie, et plus encore si tu le veux, mille bises coquine, Isidore. Isidore, en réponse de ton écrit épistolier quelque peu insensé, je dois te dire que rien en toi n'éveille mes pensées. J'en suis consternée, chiffonnée, désolée. Je ne te dis que mon ressenti. J'en suis fort contrite. Bon vent, Isidore. Virginie. Virginie, je ne peux penser que tes mots soient vérité. Ne me quitte point, j'en perds mon sens commun. Voyons-nous rien qu'une fois pour clore ou non ce prélude de cœur. Je t'en supplie, Virginie, sois mienne, au bonheur. Isidore, ton trésor. Isidore, je ne veux te revoir ni te redire mon dépit. Ne m'écris plus. Je suis très loin de tes sornettes nébuleuses et utopiques. Je suis sur le point de ronronner avec Hector. C'est lui mon trésor et non toi, Isidore. Virginie qui te fuit. Virginie, je te dis juste que je me meurs. Odieuse sorcière, hideuse douleur. Mon enterrement est pour 5 heures. Je meurs au déshonneur, désolée et très seule. Tu n'es qu'une vipère d'impudeur. Isidore. Isidore. C'est peut-être une lettre posthume, j'en suis fort peu contrite. Toi seule choisis ton destin et je ne te promis rien. Tu meurs, dis-tu? Pourquoi donc te vis-je? Hier soir, tout contre Edwige. Tu mens comme tu respires, tu m'indiffères, tu es petit. Virginie qui t'oublie.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles? Qui crie quand siffle le nickel au ciel. Ces drôles n'ont plus de densité. Ces drôles n'ont plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers indigestes? D'azur aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuées usures, chimère, ce fantôme peuple ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures, du jour ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lents sont de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lents sont de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant. À gauche, à l'est, enfin, enfin comme un vieil éléphant. Paris. Et tes mouvements l'enfant de majesté. Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers allégeants? Si tu penses, Boeing, Boeing, et tes mouvements l'enfant de majesté. Boeing, 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 est-ce la faute de tes passagers allégeants? Si tu penses.
Merci Sophie. Il me reste à vous lire le troisième texte, sans lettre A, écrit par Véronique Fauvinet. Malheureusement, c'est moi qui vais être obligé de vous le lire, car notre amie Véronique souffre aujourd'hui même d'une extinction de voix carabinée, ce qui semble rédhibitoire à la radio. Véronique, si tu nous entends en ce moment au fond de ton lit avec un gros sac à glaçons sur le front, sache qu'on pense à toi, et je vais essayer, je dis bien... essayer de lire ton texte le mieux possible, mais malheureusement pas aussi bien que tu ne l'aurais fait toi-même. Amis auditeurs, préparez-vous à écouter cette histoire lettrophobe. Une histoire lettrophobe. Ouï, ouï, ouï ! Écrire un texte exempt d'une voyelle essentielle, une des plus utilisées même. C'est quoi ce sujet intello-merdique ? Et comment procéder ? Bon, en route. Vive l'écriture impulsive, le dico des synonymes, les mots débridés et le genre débile profond. Voici l'histoire insolite et bouffonne d'un hibou bougon en révolte. Pourquoi un hibou ? Mais son nom ne contient nullement cette lettre funeste et interdite. C'eût peut-être encore un chien, un mouton, un crocodile, un cochon, un ver de terre, un pou. Bon, ce fut le triomphe du hibou. Donc, il se trouve que ce hibou en question est excessivement en colère contre ces hommes nuisibles qui pulvérisent des pesticides, des insecticides, des herbicides et bientôt des hibouticides. Ouh ! Ouh ! Ils se prennent pour quoi, les hommes ? Je ne veux point crever, moi, ni finir estropié ou victime de guerre. Je ne veux nullement voir tous les miens s'éteindre. Je les emmerde, les hommes. Je les conspue. Je les déteste. Ouh, ouh, les ignobles monstres. Bon, le hibou bougonne et déverse un flot de noire colère, ce qui n'empêche guère l'homme de continuer ses incongruités. De telle sorte qu'un jour, notre hibou bougon, bouffi tellement il est boule de nerfs rosé, décide de bouter l'homme hors d'ici. Il réunit tous ses compères hiboux. Il leur ulule le problème de ces hommes stupides qui détruisent leur propre territoire et leur soumet son idée de solution définitive. Eh bien, dingue, croyez-moi si vous voulez, tous ces bougres de hiboux décrètent de concert que oui, les hommes sont des criminels, que oui, ils sont devenus trop nocifs pour mériter de vivre ici, sur cette bonne vieille terre. Il devient évident, urgent même, de les exterminer. Donc, comment procéder ? Leur crever les yeux peut-être ? Ou bien leur chier dessus ? Ou encore leur crier des « ouh, ouh, ouh » jour et nuit ? Bof ! Toutes ces propositions sont bien trop gentillettes pour eux. Mieux encore, les empêcher de se reproduire. Quelle bonne idée ! Voici enfin venu le jour des hiboux. Dès lors, tous les hiboux du monde entier guettent le soir derrière les fenêtres pour troubler et terrifier les couples en plein coït, et même les mutiler si besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont tellement déterminés qu'ils iront jusqu'au hibou. Une féroce guerre des hiboux est en route. Plus rien ne peut interrompre leur sinistre dessein. Bonnes gens, je vous le dis ce soir tout de go. Si toutefois vous vouliez encore vous reproduire, rien n'est plus possible. Les coucourdes sont cuites, les coucougnettes sont sèches et les couples sont ou seront bientôt définitivement stériles. Rentrez vos bijoux, jetez vos joujoux, finis nos chers petits poux et nos gentils petits choux qu'on tient sur les genoux. Terminez les guliguliers et cette sempiternelle comptine de petites bêtes qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Bouhouhou. En guise de conclusion, on n'énerve point le hibou, un point, c'est tout. Voici donc le bout de cette histoire pour dormir debout, d'hibou, devrais-je dire, dont je ne suis point entièrement fier. Je peux bien le confesser, toutefois, je suis bien heureuse de pouvoir beugler. Mission exécutée et réussie. Du moins, je l'espère.
Je ne connaissais pas encore notre aventure, Audrey Delors. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Bien, eh bien, merci Hervé, merci à toi et à tes amis lectrices.
Merci.
Lectrices et auteurs. Lectrices, lecteurs, auteurs et autrices. On peut dire ça.
Je ne sais pas si on dit auteur ou autrice.
En tout cas, bravo, parce que l'exercice d'écrire en supprimant une voyelle est quand même particulièrement difficile. Donc vraiment, bravo à tous ceux qui ont participé à cet atelier. Je profite du temps qui m'est imparti au micro pour vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'espère vous donner envie de le lire. On avait parlé, rappelez-vous, de Sorge Chalandon. Il y a quelque temps, on avait lu, enfin Hervé, tu avais lu Le Quatrième Mur, qui était un livre particulièrement fort. Eh bien, Sorge Chalandon vient sortir un nouveau qui s'appelle Le Jour d'Avant. Donc ça se passe dans le nord de la France, c'est le monde de la mine. Il y a un terrible accident dans une mine, ça se passe dans les années 70, je crois. Et ben, le jour d'avant, il s'est passé un certain nombre de choses.
Qui expliquerait l'accident ?
Alors, je n'en dis pas plus, parce qu'il ne faut surtout pas dévoiler le... Comment dire ? Le charme du livre réside dans le... Comment dire ? Pas les coups de théâtre, mais les petites choses qui arrivent alors qu'on ne les attend pas. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. À Lise, à Sophie et à Véronique. Elles n'ont pas lu dans cet ordre-là, mais peu importe.
Au revoir.
Au revoir. Nous reviendrons dans 15 jours maintenant pour une nouvelle lecture. Hervé, as-tu une petite piste sur...
Évidemment pas, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Eh bien, ce sera la surprise, comme d'habitude. Allez, au revoir à tous.